parler de la médecine anthroposophique. Alors, sachant que je ne suis pas du tout médecin et que si j'en parle, c'est en tant qu'ancien élève Steiner-Waldorf, ancien professeur des écoles Steiner-Waldorf, et également en tant qu'ancien anthroposophe.
Comme ça, c'est merci. Pour que ce soit plus près, pour t'entendre mieux.
Merci. Alors, ça a été intéressant pour moi de travailler sur ce sujet, puisque du coup, je me suis attelé à essayer de rassembler mes souvenirs de médecine anthroposophique, de vécu de médecine anthroposophique, et puis d'essayer de voir la cohérence d'ensemble de ce que j'avais vécu. Il y a un premier élément qui suscite la réflexion quand on s'intéresse à la médecine anthroposophique, c'est le problème de la sincérité apparente des médecins anthroposophes quand ils vous parlent de leur médecine. Je veux dire par là que les médecins anthroposophes disent haut et fort que leur médecine n'est pas en contradiction avec la médecine moderne, avec la médecine traditionnelle, mais en complément avec elle. Et ce qui peut être troublant, c'est qu'ils ont l'air sincères, ils y croient à cette notion de complémentarité et non pas de contradiction. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ce sont de fiefs menteurs ou bien y a-t-il quelque chose de plus complexe qu'il s'agit d'essayer de percevoir quand on s'intéresse à la médecine anthroposophique. Ce discours selon lequel la médecine anthroposophique ne serait pas en contradiction avec la médecine moderne, mais l'élargirait, c'est le terme qu'ils emploient, à mon avis, il est symptomatique d'une logique d'ensemble de l'anthroposophie. C'est le même discours dans les écoles Steiner-Waldorf. Dans les écoles Steiner-Waldorf, on vous dit qu'il s'agit d'une pédagogie qui va favoriser l'épanouissement de l'enfant, qui va permettre la liberté de sa pensée, qui va favoriser l'épanouissement de son individualité profonde. C'est pas du tout ce qui se passe, mais les pédagogues Steiner-Waldorf, ils croient à ce discours. Et ça peut être tout à fait déconcertant quand on est en face de l'un d'eux, parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui vous ment ou qui ne croit pas à ce qu'il dit. Non, il est vraiment convaincu de faire un travail en faveur de la liberté des enfants. Vous voyez, c'est le même type de logique que j'essayais de vous décrire pour la médecine anthroposophique. C'est-à-dire, il y a une sincérité apparente du discours, et ça, ça a une racine que je vais essayer de vous présenter. Alors, c'est pas seulement pour me dédouaner de ne pas savoir du tout utiliser les PowerPoints que j'ai mis cette image, c'est parce qu'elle a une signification importante dans l'explication que je vais vous proposer. Là, il faut savoir que pour les anthroposophes, l'archange Saint-Michel, alors ils ne vont pas l'appeler Saint-Michel, ils vont l'appeler Michael, joue un rôle extrêmement important dans leur cosmologie, dans leur doctrine ésotérique. Si vous êtes anthroposophe, c'est que, pour un anthroposophe, vous avez été avant de naître, c'est-à-dire dans votre séjour intermédiaire entre deux réincarnations, vous avez été un élève de l'archange Michael. Alors, je ne sais pas comment sont décorées les salles de classe entre la vie, entre la mort et une nouvelle naissance, Mais en tout cas, si vous êtes anthroposophe, c'est que vous avez eu pour instructeur l'archange Michael en personne. C'est lui qui vous a enseigné l'anthroposophie avant que vous ne naissiez sur Terre. Et en fait, quand vous rencontrez l'anthroposophie, c'est que vous ne faites que redécouvrir quelque chose que vous aviez déjà appris dans votre séjour entre la mort et une nouvelle naissance. Et d'ailleurs, on peut repérer, petite parenthèse, on peut repérer un anthroposophe au fait qu'il dira Michael et non pas Michel, et aussi dans la manière de le dire, il y a un phrasé anthroposophique. Ce serait Michael, hein, c'est, voilà, parce qu'ils font de l'art de la parole, et donc il y a un phrasé anthroposophique qui est intéressant aussi à repérer. Alors, l'archange Michael, pour les anthroposophes, c'est celui qui combat le dragon. Le dragon, qui est-ce ? C'est Ahriman, c'est-à-dire l'une des deux forces du mal, celle qui est responsable depuis le 15e siècle, à peu près le 15e siècle, qui est responsable de l'accroissement du rationalisme, du matérialisme, de l'athéisme, qui conduit donc l'humanité à sa perte. Et Michael a pour mission de terrasser le dragon. Là, en ce moment, dans toutes les écoles Steiner-Waldorf, il y a eu la semaine dernière la célébration de la Saint-Michel, où les enfants ont réalisé un dragon, une espèce de dragon chinois avec des personnes, les élèves qui l'animent à l'intérieur, avec une petite scénographie où Saint-Georges, invoquant l'archange Michael, parvient à tuer le dragon et à délivrer la princesse de cette bête. Il faut savoir qu'en fait, dans la cosmologie des anthroposophes, la célébration de cette fête est primordiale. Cette fête, pour les anthroposophes, symbolise la victoire de la pensée michaélique sur le rationalisme, le matérialisme, l'athéisme, etc. Alors évidemment, ce n'est pas dit tel quel aux élèves. On ne fait pas de discours ou d'explication de cette fête qui est récurrente chaque année dans les écoles, mais les anthroposophes, eux, savent très très bien ce que cette fête symbolise et disons que son contenu finit par imprégnation à passer dans l'esprit des élèves. Cette importance de l'archange Michael, il est relayé en interne chez les anthroposophes par une espèce de petite phrase que tout anthroposophe entend régulièrement et qui est « Il faut entrer dans la peau du dragon ». Il faut entrer dans la peau du dragon, c'est non seulement la phrase qui caractérise la mission de tout anthroposophe, mais aussi ce qui caractérisait la destinée de Rudolf Steiner lui-même, le maître en personne. C'est une petite phrase que l'un des premiers disciples de Steiner, Édouard Churet, qui était français, a repéré et qu'il a, dont il témoigne très 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 tôt, en disant que le maître de Steiner, puisque quand on est un grand initié qui a des révélations sur le monde suprasensible, on doit avoir eu un maître, donc le maître de Steiner lui aurait dit « Si tu veux combattre l'ennemi, avec une majuscule, commence par le comprendre. Tu ne vaincras le dragon qu'en entrant dans sa peau. » C'est au plus fort de la détresse que tu trouveras tes armes et tes frères de combat. Je t'ai montré qui tu es, maintenant va et reste toi-même. Édouard Churet ajoute, il obéit et se mit en route. Comment vaincre, ou plutôt comment apprivoiser et convertir le grand ennemi, la science matérialiste d'aujourd'hui, qui ressemble à un dragon formidable, revêtu de sa carapace et couché sur son immense trésor. Comment dompter ce dragon de la science moderne et l'atteler au char de la vérité spirituelle ? Le programme de l'anthroposophie, il est dans ces quelques phrases que je viens de vous citer. Il faut entrer dans la peau du dragon. Et la phrase, surtout en allemand d'ailleurs, est remarquable parce qu'elle a un double sens. Entrer dans la peau du dragon, c'est premièrement entrer dans la peau d'un personnage. Quand on dit en français « je dois rentrer dans la peau de quelqu'un », ça veut dire me mettre à la place de, entrer dans, comme un acteur, joue un rôle et rentre dans la peau d'un personnage. Et puis on a un deuxième sens qui est faire la peau, c'est-à-dire tuer, terrasser, pénétrer avec son épée la cuirasse du dragon pour l'anéantir. Et c'est ça, c'est cette phrase qui explique et permet de comprendre, selon moi, la position paradoxale des anthroposophes vis-à-vis de la science moderne. Et ça explique aussi, à mon avis, la médecine anthroposophique. Parce que effectivement, vous n'allez pas avoir, quand vous avez affaire à des médecins anthroposophes, vous n'allez pas avoir affaire à des gens qui ne connaissent rien à la médecine traditionnelle, qui font fi de tout ce qu'ils ont appris pendant leurs années d'études. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont, j'en ai connu personnellement, ils sont abonnés aux dernières revues scientifiques, ils se tiennent à la page, ils sont capables de vous produire des discours extrêmement bien renseignés sur les dernières découvertes scientifiques. Et en même temps, prenez une médecine, pratiquez une médecine qui est tout sauf scientifique. Et on peut comprendre cette contradiction apparente quand on se réfère à cette petite phrase « entrer dans la peau du dragon », c'est-à-dire être capable d'endosser un vêtement qui est celui de la science moderne, de la science matérialiste, comme il l'appelle, et en même temps, tout en ayant endossé ce vêtement, se dire « ce n'est qu'un vêtement et c'est un moyen pour moi » d'entrer dans la place et de tuer le dragon, c'est-à-dire de tuer la science moderne. Oui, c'est, il semblait important de mettre un peu l'accent sur cette petite phrase qui, je crois, n'est pas très connue, mais qui, chez les anthroposophes, est extrêmement connue. Et même chez les élèves des écoles Steiner, hein, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu dois, par exemple, moi, quand je me préparais à faire mes études et que j'ai dit que je voulais m'intéresser à la philosophie, on m'a dit c'est bien, il faut des gens comme toi qui entrent dans la peau du dragon pour pouvoir transformer le monde. Il y a souvent des journalistes qui m'interrogent sur le pourcentage de réussite des élèves à la sortie des écoles Steiner. Et puis, quand j'en viens à dire que oui, il y a aussi des élèves qui font des études universitaires, on sent sur leur visage le moment de soulagement, et on voit qu'ils sont en train de se dire « ah bah bon, bah, c'est pas si grave finalement, c'est pas si grave, ils font quand même des études ». Oui, ils font des études, mais ils font des études avec l'idée de rentrer dans la peau du dragon, ce qui est presque aussi, enfin ce qui à mon avis est aussi grave que de ne pas pouvoir en faire, parce que vous allez en quelque sorte à la rencontre du monde moderne et de la science en mission, en guerre, en guerre contre elle. Et évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir véritablement à ce que la science et la modernité peuvent vous offrir. Vous allez la connaître, mais c'est pour la combattre. Et en plus, dans une stratégie qui est une stratégie d'infiltration, d'attente, pour trouver le moment propice pour pouvoir faire la peau à la bête en question. Et ça, c'est ce qui permet, je crois, la constitution de cette insincérité des anthroposophes. Cette insincérité non seulement vis-à-vis de la société, des gens auxquels ils s'adressent, mais également cette insincérité vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est le plus difficile, le plus troublant quand vous avez affaire à des anthroposophes, c'est que la plupart du temps, ces gens-là vous mentent de bonne foi, si la chose est possible. Pas les élites, ça, pas les dirigeants, parce que eux, ils ont suffisamment de retour de la réalité pour savoir que ce n'est pas vrai. Et ils sont suffisamment intelligents, parce que s'ils sont au poste de dirigeant, c'est qu'ils ont suffisamment d'intelligence pour cela. Ils sont suffisamment intelligents pour voir ce qui dysfonctionne dans l'anthroposophie et ce qui n'est pas vrai dans l'anthroposophie. Ils le disent d'ailleurs entre eux. Je vais laisser passer. J'en parlerai peut-être après. Maintenant, comment comprendre la médecine anthroposophique? Alors, je crois qu'il y a une grosse erreur à ne pas faire. C'est que la plupart des gens qui s'intéressent à l'anthroposophie l'abordent par la lecture des livres de Steiner. Alors, j'ai rien contre qu'on fasse un travail de lecture, d'approfondissement, de connaissance, si on souhaite enquêter sur l'anthroposophie. Avec juste une précision, enfin une réserve, c'est que, attention, les écrits de l'anthroposophie sont ce que l'anthroposophie veut que vous voyez d'elle. C'est sa face apparente. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est la face cachée, c'est-à-dire la pratique. Comment ça se passe en pratique? Comment ça se passe dans la réalité de la pratique de la médecine anthroposophique, de la biodynamie, des écoles Steiner-Waldorf, etc. Sinon, si on se laisse prendre par ce qui est simplement écrit, il faut savoir que ces écrits sont prudents, sont rusés, tout ne vous est pas dit, et beaucoup de choses sont dites entre les lignes, sont dites, il faut lire ce qui est écrit dans les points de suspension. Alors, par exemple, il y a une conférence de Steiner où on sent qu'il est furax, il parle à son auditoire et il leur pose la question, bon, et alors qu'est-ce qu'on fait quand un de nos amis, un de nos médecins, est mis en prison pour pratique illégale de la médecine? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? C'est une conférence assez qui doit dater de 1904, c'est-à-dire très tôt dans le développement de la mise en place de l'anthroposophie. Vous entendez ce qu'il y a dans le « qu'est-ce qu'on fait les amis ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons devoir mettre en... C'est toujours ça, Steiner, il faut lire les blancs. Qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en place pour que, quand nous voulons faire appel à un médecin qui n'est pas un médecin traditionnel, qui n'est pas un médecin dévoyé à la science matérialiste de notre époque, qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en place pour que notre médecin ne se fasse pas arrêter et jeter en prison? Il va falloir, toujours dans le blanc, il va falloir développer une stratégie qui permette que notre médecin ne se fasse pas prendre. Cette stratégie, je pense qu'il l'a mis en place, parce que c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, et c'est quelque chose qu'il a mis en place quelques années plus tard, avec sa collègue et maîtresse Ita Wegman, quand il a mis en place la médecine anthroposophique. Sur son lit de mort, quand il était très très malade, la seule personne qui était autorisée à venir le voir régulièrement, c'était sa maîtresse Ita Wegman, à qui il dictait les éléments fondamentaux pour l'élargissement de l'art de guérir. C'est dire l'importance qu'il accordait à cela. Alors voilà, ce que j'ai essayé de faire, c'est une petite liste de ce que j'avais vécu en tant que patient de l'anthroposophie, professeur des écoles Steiner-Waldorf, etc. Et donc je vais vous les livrer telles quelles, hein, comme du matériau brut. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer d'exposer les causes de ces comportements. Je précise que ce que j'ai pu observer, je l'ai observé sur plusieurs médecins anthroposophes, dans plusieurs écoles Steiner-Waldorf, et je crois qu'on pourrait les observer dans beaucoup d'autres structures Steiner-Waldorf et chez beaucoup d'autres médecins anthroposophes. Alors voilà, je vous livre les faits que j'ai pu observer personnellement à l'état brut. D'abord, et ça c'est assez fréquent, des médecins anthroposophes scolaires qui pratiquent ce qu'ils appellent des vaccins blancs. C'est-à-dire il y a le mariage blanc, il y a les vaccins blancs. Les vaccins blancs, ça consiste à dire que le vaccin a été pratiqué et l'inscrire sur le carnet de santé, alors que ce n'était pas le cas. Généralement, ça se fait avec l'accord des parents qui sont venus en parler aux médecins scolaires anthroposophes, qui d'ailleurs fait la chose de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il remplit sa seringue du vaccin, et il fait semblant de piquer l'enfant, et le liquide s'écoule à côté. Hein, pour que l'enfant puisse dire, il y a eu le geste, sauf qu'il n'a pas été piqué. Vous voyez la contradiction que ça met en place dans l'esprit de l'enfant. Un autre fait que j'ai pu observer, qui m'a rempli d'horreur d'ailleurs, il faut savoir que chez les médecins anthroposophes, la fièvre, c'est quelque chose de bien. Parce que quand votre température monte, la température du sang étant liée au moi de l'être humain, le moi étant le composant le plus important de votre être, puisque vous avez plusieurs composants, vous avez le corps éthérique, le corps astral, le corps physique, etc., puis vous avez un moi aussi, ce moi est lié à la chaleur. Donc, quand vous faites de la fièvre, c'est bon. Ça veut dire que votre moi est en train de s'affirmer. Et c'est pour ça que j'ai vu ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, un médecin anthroposophe qui restait sans réaction face à la fièvre d'un enfant qui était monté quand même à 40-41 et qui faisait des convulsions. Et la mère était affolée à côté en disant « Mais on ne peut pas rester comme ça, il est en train de faire des convulsions, c'est extrêmement grave ». Et ce qu'a fait le médecin anthroposophe, c'était de lui rajouter une couverture à l'enfant. Mais dans sa logique, le moi de l'enfant était en train de s'affirmer, donc c'était très 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 bien. C'était pas si grave. J'ai vu également un médecin anthroposophe fortement inciter une patiente qui avait des troubles bipolaires à arrêter son traitement au lithium. Je ne sais pas si vous connaissez ces troubles-là, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, puisque quand on arrête le traitement au lithium chez un patient atteint de troubles bipolaires, une crise maniaque peut survenir avec toutes les conséquences qui peuvent se produire. Et même le médecin anthroposophe essayait de convaincre cette patiente, en lui disant, mais avec les granules homéopathiques que moi je vais pouvoir vous prescrire, ne vous inquiétez pas, vous n'entrerez pas en crise maniaque. Je continue. Une fois, c'était une vieille dame, un membre important de la communauté anthroposophique, qui a eu une crise, une occlusion intestinale complète, pendant 12 jours. Et le médecin anthroposophe était venu la voir dès le départ, et il lui a dit, on va te prescrire des lavements d'estomac avec une poire à lavement. Et la souffrance de cette personne qui était quand même assez âgée, je ne sais pas si vous connaissez la douleur liée à l'occlusion intestinale complète, c'est une des plus douloureuses qui existent. C'est absolument atroce. Je l'ai vu se tordre de douleur alors que c'était quelqu'un de stoïque pendant plus de 12 jours. Et c'est pas le médecin anthroposophe en question qui est intervenu pour que cette personne aille à l'hôpital et se fasse opérer d'urgence, comme il aurait dû le faire quasiment dès le premier jour. Non, c'est l'infirmière, qui était pourtant une infirmière anthroposophe, qui, au bout d'un moment, a appelé elle-même les urgences pour que la dame soit amenée au service approprié. Ils lui ont enlevé un mètre d'intestin et ils lui ont dit, après l'opération, à une heure près, vous y passiez. Oui, ça c'est drôle aussi. Alors c'était une patiente qui était dépressive, parce qu'elle était prof dans une école Steiner-Waldorf, forcément. Donc elle est allée voir le médecin de l'école en lui disant je vais pas bien, mes collègues me harcèlent, je suis maltraitée, je vois le problème. Alors écoute, ce qu'il faudrait, c'est que tu t'achètes une machine à broyer les salades qui a été fabriquée en Allemagne. Elle broie les salades de manière à ce que les forces éthériques de la salade s'en dégagent. Elle coûte 500 euros. J'imagine que tu n'as pas les moyens. Donc, ce que je te propose, c'est que j'en ai une. Je la fais tourner entre plusieurs patients. Tu me paieras 50 euros à chaque fois que tu l'utilises. Mais au bout de quelques semaines, ça devrait faire son effet. J'ai vu souvent, alors ça c'est une amie de ma sœur qui m'a raconté ça, comme quoi le monde est petit, pas du tout quelqu'un qui était en lien avec l'anthroposophie, mais on en parlait un jour, elle me fait « Ah oui, bah, tu sais, tel docteur que tu connais bien, moi je l'ai connu parce que je suis allé en consultation avec lui, alors j'allais le voir une fois par semaine, la consultation durait une heure et demie à chaque fois. » Et en fait, on a fait comme ça une séance de psychothérapie sur le long cours. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'adore cet homme. Je ne connais pas du tout la médecine anthroposophique, mais vraiment, j'adore cet homme. Ça a été formidable. Donc, vous voyez, des séances des consultations médicales qui se transforment en séances de psychothérapie individuelle prolongée. Ça c'est assez fréquent aussi dans la médecine anthroposophique, alors que le médecin en question, que je connaissais bien, n'avait strictement aucune connaissance ni compétence psychologique ni psychiatrique, ni rien du tout. J'ai vu aussi ça se mettre en place avec des thérapies de couple. Des thérapies de couple dont l'une s'est soldée par le fait que le couple s'est séparé et que l'épouse est allée avec le médecin anthroposophe en question. Voilà. Il me l'a dit d'ailleurs, il me disait dès que je les ai reçus dans mon cabinet et que j'ai vu l'épouse, je me suis dit intérieurement en regardant l'homme, toi je vais te piquer ta femme. Alors, ça fait rire, mais en même temps, ça vous dit quelque chose de leur déontologie. Encore un autre fait intéressant. Très souvent, quand vous allez chez un médecin anthroposophe, il va vous demander, parfois dès la première séance, mais parfois un peu plus tard, il juge ce qui est acceptable pour vous. Est-ce que je peux prier pour vous ? Est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous ? La liberté est respectée. Sur cette importance de la prière, je raconte toujours ce que j'ai pu constater par moi-même. Une personne qui était en grave crise de délire et d'angoisse, enfin quelque chose qui aurait nécessité une hospitalisation en psychiatrie urgente, absolument urgente. Le médecin anthroposophe qui l'avait reçu dans son cabinet a eu un réflexe immédiat de médecin anthroposophe, c'est-à-dire qu'il, alors qu'elle était allongée sur son lit de médecin, le médecin anthroposophe en question s'est agenouillé devant elle et puis s'est mis à prier. Parce qu'elle était, à ses yeux, elle était en crise de possession démoniaque. Un démon était en train d'essayer de s'emparer d'elle. Et du coup, la seule réponse adéquate, c'était la prière pour essayer de chasser le démon qui s'emparait de cette personne. Un enfant qui était atteint d'une otite sévère. Le médecin anthroposophe arrive et il dit à la mère, écoutez, il y a un remède très efficace, c'est que vous allez faire frire des oignons et vous allez mettre ces oignons dans son oreille. Parce que le mal qui est contenu dans l'oreille va être absorbé par les oignons frits. Mais attention, pas trop frits, hein. Si vous les faites trop frire, les oignons, le mal ne va pas pouvoir être absorbé. J'ai assisté à des conférences de médecins accoucheurs. C'était très intéressant, de médecins anthroposophes accoucheurs. Alors, ils nous racontaient, c'était des conférences au siège de la Société anthroposophique à Paris. Ce médecin travaillait avec deux sages-femmes, donc quelqu'un qui a toute sa vie à pratiquer les accouchements. Et il nous racontait comment son premier travail, quand il recevait une femme dans son cabinet, c'était d'essayer de la dissuader absolument de la péridurale. Alors il lui expliquait que la souffrance n'était pas très grave. Et puis il nous expliquait que des fois, quand il sentait une réticence trop importante de la femme vis-à-vis de la douleur à venir, il employait volontairement une phrase forte en disant « Mais écoutez, s'il y a le feu à l'hôpital, vous ne pourrez pas vous sauver. » Et ça a emporté la conviction de la jeune maman qui allait accoucher, parce que oui, c'est vrai que si jamais il y a le feu à l'hôpital, eh bien, il faut pouvoir prendre les jambes à son cou, ce que ne peut pas faire une femme sous péridurale. J'ai vu également, alors ça c'était beaucoup plus triste, plusieurs personnes atteintes de cancer, un cancer du sein et un cancer du poumon, décider de ne pas se soigner. C'est des personnes qui étaient dans la mouvance anthroposophique, donc elles ont décidé de ne pas se soigner et dès le départ de la diagnostication de la maladie, qui évidemment était intervenue bien tard puisque ces gens-là ne font pas de dépistage sauf par accident ou quand ils commencent à avoir des douleurs importantes. Eh bien, elles se sont mises elles ont refusé les traitements, les chimiothérapies qu'on voulait leur mettre en place en urgence et les radiothérapies. Et elles pensaient pouvoir se soigner, l'une en changeant son alimentation. Elle avait fait envoyer des gouttes de son sang dans un laboratoire en Allemagne qui pratiquait ce qu'on appelle en anthroposophie des cristallisations sensibles. Les cristallisations sensibles, c'est on met des gouttes, des extraits de n'importe quelle substance dans une cristallisée, dans quelque chose qui va cristalliser, ça fait des formes, une espèce de petites étoiles. Voilà. Et en fait, dans ces formes, vous pouvez lire les forces éthériques des substances en question. Donc ils vous montrent, par exemple, ils ont fait une cristallisation sensible de pommes de terre élevées, de pommes de terre traditionnelles et de pommes de terre biodynamiques, et ils vous montrent, vous voyez, l'étoile de la pomme de terre biodynamique est beaucoup plus marquée, beaucoup plus ferme, avec des lignes beaucoup plus franches. C'est bien la preuve que les forces éthériques de la patate biodynamique est bien meilleure que les forces éthériques de la patate traditionnelle élevée avec cultivée avec des pesticides. Et c'est pareil pour le sang. Il y a une espèce d'augure du sang des patients avec les cristallisations sensibles pour les médecins anthroposophes. Donc comme cette cristallisation sensible avait révélé qu'il ne fallait pas manger toute une liste d'aliments qui lui avaient été envoyés par la poste et qu'elle guérirait de son cancer si elle ne mangeait pas tout ça, ben elle s'y est tenue pendant plus de 2 ans, ce qui a permis à son cancer de progresser tranquillement, sans aucune contrainte, et évidemment elle en est morte. La deuxième personne, c'était celle qui avait le cancer du sein. Elle n'a pas voulu se faire opérer du sein. Et puis elle pensait qu'en ne mangeant pas de protéines animales, eh bien, elle ne nourrirait pas son cancer. Du coup, le cancer a progressé. Une des personnes que j'ai vu mourir dans les conditions les plus atroces qui soient. Dès qu'elle buvait un verre d'eau, elle avait toutes les métastases qui se mettaient à gonfler. Elle se recroquevillait en hurlant de douleur dans un coin de sa chambre. Puis après, quand ça allait un tout petit peu mieux, elle se relevait, elle faisait sonner un gong. Vous savez, ces gongs là qu'on achète et qui font... Parce que les vibrations du gong produisaient des forces éthériques qui étaient censées la soulager. Bref, c'était atroce. Quelque chose de petites choses. Les soins avec des vitraux, c'est ça aussi la médecine anthroposophique, c'est-à-dire que celui qui avait mis en place ce système de soins avec des lumières colorées de vitraux était venu nous faire un exposé à la Société anthroposophique et nous disait, voilà, on a mis ça en place avec le laboratoire Velleda. On a créé une chambre avec des vitraux. Alors, il s'était vraiment cassé la tête pour faire des vitraux comme au Goetheanum. Et apparemment, c'était compliqué parce que le procédé s'était perdu. Et il expliquait, ben voilà, on expose, suivant le type de maladie, on expose le patient à 10 minutes d'éclairage à la lumière rouge, enfin au vitraux rouge, et puis, pas 11, ben c'est empirique, hein, il faut juger, parce qu'on sent que tout de suite il se sent mieux dès qu'il est exposé, lui à la lumière rouge, lui à la lumière bleue, etc. Donc il y avait une thérapie par la lumière qui était censé soigner des patients atteints de maladies très très graves. Ça c'est encore une pratique que j'avais pu observer chez un médecin anthroposophe, la falsification a posteriori des ordonnances. Une fois ce médecin anthroposophe, c'est lui qui me le racontait hein, d'ailleurs, il disait, ben voilà, j'ai été mis en cause dans une histoire de malnutrition d'un jeune enfant, qui a fini à l'hôpital et on m'accuse de ne pas avoir dit aux parents de nourrir convenablement l'enfant avec une diversité d'aliments. Moi, tu comprends, moi, j'ai pas à m'immiscer comme ça dans l'alimentation des enfants. Les parents font ce qu'ils veulent. Bon, écoute, pour pas avoir d'ennui, j'ai fait un truc très simple, c'est que, tu sais, tous les doubles d'ordonnance, je les garde chez moi. Donc, j'ai rajouté, sur l'ordonnance, j'ai rajouté, je prescris aux parents de donner à leur enfant une alimentation équilibrée. Et c'est pas le seul cas de ce genre qu'il m'a raconté. Oui, je voudrais faire un petit. Ah oui, encore une chose. Oui, non, ça va dans mon deuxième paragraphe. Le médecin scolaire anthroposophe. Très tôt, Rudolf Steiner, quand il monte la première école Steiner-Waldorf, insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir de médecin scolaire extérieur. c'est-à-dire de médecins scolaires extérieurs à l'anthroposophie. Il y avait déjà à l'époque un premier médecin anthroposophe, docteur Nag, je crois, et il ne pouvait pas être présent sur la création de sur le site de la première école Steiner de Stuttgart. Donc Steiner dit clairement au professeur de l'école, de cette de première école Steiner, écoutez, tant qu'on n'a pas un médecin anthroposophe pour être le médecin scolaire de l'école, pas de médecin extérieur. Et encore une fois, tout est dans les trois petits points qui suivent cette déclaration. Il ajoute même, tout regard extérieur porté sur ce qui se passe à l'intérieur de notre école serait source de désagrément. Ça nous dit quelque chose du rôle que doit jouer le médecin scolaire anthroposophe dans une école Steiner-Waldorf. J'ai déjà parlé des vaccins, mais le rôle du médecin Steiner, du médecin anthroposophe dans les écoles Steiner-Waldorf ne s'arrête pas là. Alors là aussi, j'ai essayé de me remémorer les faits dont j'avais été témoin. Alors, pour les élèves, pour les adolescentes, pour les jeunes filles adolescentes, très souvent, ces jeunes filles, quand elles ont des problèmes liés à la contraception, elles vont voir le médecin anthroposophe de l'école. Elles sont orientées immédiatement vers lui. Et moi, ce à quoi j'ai assisté, c'est le fait que ce médecin anthroposophe, immédiatement, essayait de les convaincre de ne surtout pas utiliser la pilule. Parce que la pilule allait les couper des cycles cosmiques lunaires. Puisque le cycle menstruel, pour les anthroposophes, est lié au cycle cosmique lunaire. Donc ça, c'était problématique parce que vous devez, en tant qu'être humain, être relié au cosmos. En l'occurrence, les femmes doivent être reliées à la Lune. Sinon, quelque chose est faussé dans leur être et vous êtes un être humain coupé du spirituel. Ça, c'est très très grave. Donc il ne faut pas utiliser la pilule. Alors du coup, quand ces jeunes filles lui demandaient « Et alors comment je fais, docteur ?» la réponse, c'était « Mais vous savez, il y a la méthode Ogino qui marche très très bien. Hein, marche très très bien. Sauf que, voilà, vous pouvez imaginer ce qui se produisait ensuite. » Sachant qu'en plus, l'avortement était également déconseillé, puisque évidemment, les jeunes filles venaient ensuite voir, dans un deuxième temps, le médecin anthroposophe en lui disant « J'ai essayé la méthode Ogino, voilà, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Et le papa, il en pense quoi ?»« Ah, il n'est pas d'accord. Oh là là, naturellement, les garçons. Bon, mais vous allez pouvoir, vous avez du temps, vous avez 9 mois, vous allez pouvoir le convaincre d'accepter cet enfant. Hein, » voilà. À 15, 16 ans, voilà. J'ai vu également, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas connu et que je dois être une des seules personnes à pouvoir en témoigner, la divulgation des diagnostics médicaux. Il faut savoir que le médecin anthroposophe, ça fait partie d'ailleurs de ce qu'a prescrit Steiner quand il a monté la première école Steiner-Waldorf. Il a dit que le collège pédagogique, c'est-à-dire le collège de tous les professeurs, devait travailler régulièrement avec le médecin anthroposophe. Et du coup, comment ça se traduisait? Par le fait que le médecin anthroposophe venait en collège des professeurs et puis parlait du diagnostic médical qu'il avait pu faire, soit sur l'enfant, puisqu'il était le médecin de l'école, soit sur les parents, puisque beaucoup de parents des écoles Steiner-Waldorf finissent par se choisir, entre guillemets, choisir librement, le médecin anthroposophe de l'école comme médecin de famille personnel. Donc, quand les professeurs avaient parfois aussi des problèmes avec les parents, qui devenaient critiques, qui posaient trop de questions, etc., on invitait le médecin anthroposophe, dans le cercle des professeurs, et puis il venait nous raconter, il y a telle pathologie, donc on peut comprendre que tel ou tel aspect de la pédagogie lui pose problème. Alors soit ça se passait de façon aussi directe, La personne, parce qu'il y a toujours une personne qui doit noter les réunions des collèges pédagogiques, qui doit noter ce qui se dit dans un cahier. Alors là, la personne qui devait noter, on lui disait « ça, tu notes plus. Hein. » Pendant que le médecin anthroposophe parle, tu notes plus. On ne le verra jamais apparaître dans aucun écrit. Soit il y avait quand même des médecins anthroposophes qui étaient un petit peu gênés, qui se disaient « Ouh là là, si jamais ça se sait que je me fais prendre sur ce sujet, ça va être problématique pour moi. » Donc il était un petit peu plus malin. Et il faisait le compte-rendu, mais à un professeur qui ensuite, lui, rapportait les éléments médicaux au collège pédagogique réuni. Qu'est-ce que j'ai pu observer d'autre aussi? Oui, le non-signalement au service compétent de faits très graves qui s'étaient passés dans les écoles Steiner. Alors, je vais donner un exemple. Dans une école Steiner-Waldorf, il y a eu un jour une suspicion de viol généralisé dans un jardin d'enfants. Le petit garçon, la petite fille d'un demi-groupe d'un jardin d'enfants s'était mis à dire qu'un monsieur venait, avec la complicité de la jardinière d'enfants, dans leur jardin d'enfants, et puis que des pratiques sexuelles avaient lieu dans ce jardin d'enfants. Et le médecin anthroposophe en question avait été chargé par le collège pédagogique d'enquêter dans ce jardin d'enfants. Et c'était drôle parce qu'il me le racontait, mais comme s'il me racontait une histoire légère, banale, comme s'il ne s'était pas passé grand-chose, alors que sa propre fille était dans ce jardin d'enfants. Il me disait « Oui, bon, c'est vrai, j'ai constaté que la plupart des anus de ces enfants dans ce groupe-là du jardin d'enfants étaient irrités, rougis, mais bon, tu comprends, on n'en est pas sûr. Et puis ça provoquerait un tel drame pour l'école que j'ai préféré dire il s'agit d'une infection généralisée des enfants. Et puis tu comprends, le monsieur qui est suspecté, il est à 2 ans de la retraite, il y aurait une enquête, on ne peut pas lui faire ça, c'est quand même quelqu'un de bien, il a beaucoup cheminé dans l'anthroposophie. Et donc voilà, on ne peut pas lui faire ça.
C'était où,
ça, pardon ? Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire non plus. Donc, je continue. Alors, maintenant, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, j'ai voulu vous livrer des faits à l'état brut, parce que ça, je pense que vous n'en entendrez pas parler, et que ça fait partie des choses qu'il faut connaître, mais plus que les connaître, c'est pas intéressant en soi. Ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de se demander, est-ce qu'il y a une logique derrière tous ces faits que je vous ai relatés? Et s'il y a une logique, quelle est-elle? Cette logique est-elle liée à l'anthroposophie? C'est ça qui m'intéresse, parce que dénoncer tel ou tel fait, bon, ce serait intéressant, hein, évidemment, si ces faits pouvaient avoir remonté jusqu'à une étape judiciaire, ce serait mieux. Mais très souvent, ce n'est pas le cas dans les écoles Steiner-Waldorf ou dans le rapport du médecin anthroposophe à sa patientèle. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de voir si on peut dégager une logique à l'ensemble de ces faits, et puis d'essayer de voir si cette logique est liée à l'anthroposophie. Alors moi, il me semble que oui, connaissant assez bien la doctrine anthroposophique, la façon de penser des anthroposophes, et je vais essayer de dégager comme ça des lignes d'explication. La première ligne d'explication que je vois, c'est celle de l'insensibilité des médecins anthroposophes et des anthroposophes en général. Moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent observé, c'est que l'anthroposophie crée une forme d'anesthésie de l'empathie. Ça s'explique par le fait que c'est une doctrine absolument totalisante, où vous avez l'impression de savoir tout sur tout depuis le commencement de l'univers et même avant le commencement de l'univers, puis jusqu'à la fin de l'univers et même après, puisqu'il y a un après la fin de l'univers, de la connaissance de l'essence du pissenlit à celui des ultimes secrets du cosmos, faut vous imaginer que c'est quelque chose qui écrase l'esprit de celui qui essaye d'assimiler cette doctrine. Et cela provoque, à mon avis, une forme d'anesthésie de l'empathie. Vous êtes enfermé dans votre système doctrinal et les canaux normaux de l'empathie ne peuvent plus jouer. Et à mon avis, c'est pour cela que le médecin anthroposophe ne perçoit plus la souffrance de son patient. Ce médecin anthroposophe qui laisse pendant 12 jours une vieille dame en pleine crise d'occlusion intestinale aiguë, ce n'est pas possible d'expliquer un acte pareil, ou celui qui rajoute une couverture sur un enfant qui fait des convulsions, ce n'est pas possible de s'expliquer un tel acte sans, à mon avis, tenir en compte ce phénomène d'anesthésie de l'empathie. Alors, des médecins qui ont un défaut d'empathie, il n'y en a pas que dans le milieu anthroposophique, hein, on est d'accord. À ce point, je ne sais pas, par contre. Et puis, il y a d'autres facteurs. Un facteur seul, un seul des facteurs que je vais vous énumérer à présent, ne suffirait pas. C'est une conjonction de facteurs qui provoque les comportements que je vous ai décrits. Une autre ligne d'explication, à mon avis, c'est la place primordiale que jouent dans la cosmologie anthroposophique les réalisations de l'anthroposophie. Vous dites, quand vous avez affaire à une école, à une firme pharmaceutique comme Velleda, ou n'importe quel institut ou institution, association liée à l'anthroposophie, vous vous dites, ce n'est qu'une école, ce n'est qu'une association. Ce n'est pas du tout ça dans l'esprit d'un anthroposophe. Pour un anthroposophe, une école Steiner-Waldorf, c'est un germe. C'est le germe de l'humanité du futur. Et ce germe fleurira après 3553, quand commencera la sixième époque post-atlantéenne, après le déluge atlantéen. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous mettez en danger une école, quand elle risque de fermer parce qu'elle est suspectée de ceci ou cela, ou qu'un signalement de votre part risquerait d'amener une enquête dangereuse pour cette école? Eh bien, vous mettez en danger l'avenir de l'humanité. Donc, on peut comprendre que la priorité d'un médecin anthroposophe et d'un médecin scolaire anthroposophe, c'est d'abord de protéger son école, enfin de protéger l'école pour laquelle il travaille. Je vais dire le reste assez rapidement, mais c'est pas grave, parce que je dépasse, je m'en excuse. Il y a aussi comme facteur la résistance vis-à-vis des remèdes dits allopathiques. Alors attention, il ne s'agit pas d'interdits. Les remèdes allopathiques peuvent être utilisés par les médecins anthroposophes, mais quand ils le font, ils utilisent des forces antichristiques. On peut le faire, mais en dernier recours. Les antibiotiques, c'est, les anthroposophes traduisent ça en disant ce sont des anti-forces éthériques. Comme le Christ est censé se réincarner dans le monde éthérique, quand vous utilisez des antibiotiques, vous portez atteinte aux forces éthériques dans lesquelles le Christ va se réincarne depuis les années 30 du XXe siècle. Vous portez atteinte aussi au processus karmique. Les vaccins, notamment, portent atteinte au processus karmique. Donc c'est pour ça que, si on peut, il vaut mieux les éviter. J'ai entendu une fois Ah oui, puis il y a aussi cette idée on a son heure et que quand on meurt, eh bien, c'est que c'était notre heure. Et un jour, ça c'était raconté en conférence par un médecin anthroposophe, qui disait, bah oui, il y a un patient qui a reproché à son médecin, et à juste titre, de lui avoir fait rater son heure, comme on aurait raté son train. Et puis un autre anthroposophe qui reprochait à un anthroposophe qui avait eu une intervention chirurgicale, qui lui disait, mais tu sais, normalement, tu devrais être mort. Mais sur un ton de reproche. Alors la personne essayait de se justifier comme elle pouvait. Autre facteur encore, la maladie est une bénédiction. Alors ça, c'est très important dans le vocabulaire des anthroposophes, c'est-à-dire que la maladie, c'est pas grave en soi. La maladie, elle est là pour vous permettre une amélioration de votre être profond, de votre être spirituel. Donc, quand on soigne, bien sûr, accessoirement, on soigne la maladie. Mais ce qui compte avant tout, c'est que cette maladie est là pour vous faire progresser spirituellement. Et donc, évidemment, dans cette logique-là, traiter la maladie ne veut pas dire la soigner. Traiter la maladie veut dire la surmonter de manière à ce que votre être spirituel en profite, s'améliore. J'ai parlé de l'importance de la prière. Si vous lisez de cette foi dans la capacité curative de la prière, si vous lisez un livre de médecine anthroposophique, vous verrez qu'au bout d'un moment, ils se mettent à vous parler de l'évangile de Luc et des guérisons miraculeuses du Christ. Mais alors, ce qu'ils ne vous disent pas aussi clairement que moi je vais vous le dire, c'est que le médecin anthroposophe, ce qu'il voudrait comme modèle médical, c'est une médecine où on procède à des guérisons miraculeuses du type de celles qu'opérait le Christ. Ce qui est décrit pour un anthroposophe dans l'évangile de Luc, ce ne sont pas des miracles, ce sont des descriptions de processus curatifs. C'est pas la même optique. Oui, après, bon, y aura encore... ah oui, si, ça quand même faut que je le dise. Et puis il y a aussi dans la médecine anthroposophique, mais pas seulement dans la médecine anthroposophique, dans toute la littérature anthroposophique, il y a une vision du corps. Mais quand on regarde de près, je m'étonne que ça ne soit pas davantage souligné, une vision du corps délirante, avec une espèce de corps qui serait doté d'une plasticité incroyable. Par exemple, un professeur Steiner-Waldorf est persuadé qu'il dépend de lui d'accélérer ou de ralentir la croissance des enfants qu'il a à sa charge. Par exemple, vous trouvez ça dans Nature humaine, c'est le guide pédagogique des professeurs Steiner-Waldorf. Steiner dit, bah, si vous sollicitez trop leur mémoire, vous allez provoquer le nanisme. Et si vous sollicitez trop leur intelligence, vous allez provoquer le nanisme. Ils vont pas grandir, vos enfants. Par contre, si vous stimulez trop leur mémoire, vous allez en faire des géants. Donc, c'est un petit peu gênant. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais un rigolo que j'aime bien, si vous avez des taches de rousseur ou beaucoup de grains de beauté, vous pouvez vérifier, eh bien c'est que vous avez été un imbécile dans votre vie antérieure. Parce que les grains de beauté, alors la peau est une métamorphose de votre cerveau et de votre pensée. Donc quand vous avez des grains de beauté dans cette vie, c'est parce que vous avez eu des trous dans votre pensée, dans votre vie antérieure. Autre dernière chose, les dents sont une métamorphose des pieds, et les pieds sont une métamorphose des dents. Alors il y a des dentosophes, moi j'ai consulté des dentosophes, qui est un cas particulier de la médecine anthroposophique, pour ce qu'on appelle le bruxisme, c'est-à-dire le grincement des dents qui provoque l'usure des dents. Et le dentosophe me disait, ah mais je sais ce que vous allez faire, vous allez vous masser les pieds et les mollets tous les soirs avec de l'huile Velleda à l'arnica, parce que vous comprenez, comme les orteils et les dents sont connectés, eh bien vous arrêterez de grincer les dents quand, en dormant, quand vous vous serez bien massé les pieds. Mais dans sa cosmologie, ça faisait sens. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Alors, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que on ne comprend la médecine anthroposophique que quand on comprend ce combat de Michael contre le dragon. Et cette nécessité d'entrer dans la peau du dragon pour le tuer. Ces gens-là savent très bien où ils veulent aller, ou plutôt où ils veulent retourner. Sauf que ils sont des gens malins, ils savent qu'ils ne peuvent pas le dire d'emblée. Où voudrait retourner la médecine anthroposophique ? Pour moi, elle voudrait retourner très clairement aux guérisons thaumaturgiques du Christ, d'une part, et à ce qui se pratiquait dans les temples grecs dédiés à la divinité Asclepios, c'est-à-dire cette divinité que l'on rencontrait dans son sommeil, parce qu'il y avait le sommeil sacré dans le temple, et c'est elle qui vous prescrivait votre remède. C'est vraiment un récit qui hante qui hante la pensée anthroposophique, hein, ces temples d'Asclepios. Et vis-à-vis de cette attitude qui consiste à savoir exactement où on veut retourner mais à ne pas le dire, ou à dire juste ce qu'il faut pour que vous soyez en capacité aujourd'hui, à l'heure actuelle, de l'accepter, je trouve qu'on est complètement désarmé, puisque vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas sincères dans la communication de ce qu'ils croient vraiment. Pour moi, quelqu'un comme Pierre Rabhi est tout à fait dans la même logique. Par exemple, c'est quelqu'un qui va vous dire, il ne va pas vous dire d'emblée, moi je suis pour que la femme soit la compagne de l'homme telle que définie par la Bible, c'est-à-dire son complément fait pour le servir, puisqu'elle est issue d'une côte d'Adam. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire, oh oui, l'égalité c'est bien, mais la complémentarité c'est mieux. Hein? Vous voyez, c'est ce discours qui a su s'adapter à la modernité, mais tout en voulant revenir en arrière, sans le dire, ou en le disant de manière, avec une excellente communication qui permet de faire qu'on va accepter le début de ces idées-là. Mais c'est pour après aller plus loin. Voilà.
On va s'attendre quand même quelques questions, même si on a un peu débordé les heures.